Le jour des morts, elle résolut de ne pas sortir le soir. L'après-midi, désœuvrée, elle alla se promener au cimetière d'Anderlecht, passant sans émotion au milieu des gens, venus comme chaque année se camper autour des tombes, regarder avec indifférence la terre, d'où jamais leurs pensées ne faisaient surgir l'ombre des disparus. Comme elle rentrait chez elle, Clara la Roubaisienne, une fille nouvellement arrivée, qui demeurait elle aussi chez Ruider, l'invita à prendre un verre au bar voisin. « Si on allait voir les expositions de chrysanthèmes, » dit Angèle. Elles suivirent les boulevards, s'arrêtant dans les cafés où elles étaient connues, pour boire une bouteille de stout ou un grog. Lentement, elles s'en revenaient, d'autant plus bavardes qu'elles étaient joyeuses de passer la soirée chez elles. Lorsque sur le boulevard d'Anspar, elles furent frôlées par deux messieurs d'une quarantaine d'années, correctement vêtus. Clara poussa Angèle du coude. « Profitons de l'occasion !» Les deux hommes, qui avaient fait quelques pas en avant, s'arrêtaient. « On se promène, mesdemoiselles ?» Clara se hâta de lancer une phrase équivoque de fille. « On cherche un logement. »« Je vous offre le mien, » dit l'un en arrondissant un bras où Clara s'accrocha. Angèle ne voulait pas suivre l'autre, dont la tête porcine lui déplaisait, mais il prit son bras si joyeusement qu'elle le lui abandonna. Par la rue au beurre, les deux couples débouchèrent sur la grande place illuminée. En face, la masse sombre de l'hôtel de ville se perdait dans la brume. Au premier étage, un rang de fenêtres brillait d'une clarté jaune. Les deux hommes marchaient droit vers l'entrée principale. « Quel bel hôtel !» s'écria Clara. « Vous y serez bien !» Brusquement, Angèle se jeta en arrière, rassemblant toutes ses forces pour se dégager du bras qui s'était noué autour du sien. Ces individus étaient des agents des mœurs, ils les emmenaient au poste. « Garce !» cria son compagnon qui avait failli la laisser s'échapper. « Si tu rouspètes, je te fous les menottes !» La jeune femme le supplia. Elle n'avait rien fait de mal, elle n'avait rien dit. « L'autre a parlé pour toi. » Elle pleurait, criait. « Je rentrais chez moi. C'est le jour des morts, j'étais allée au cimetière. » L'agent l'empoigna par le bras et d'une bourrade lui fit faire quatre pas en avant. Elle refusa de marcher, se mit à genoux, se coucha à terre dans la boue. L'autre, furieux, la traînait, la bourrait de coups de pied, en la traitant de putain et d'entôleuse. Un groupe hostile à l'autorité se formait. Un jeune homme voulut intervenir. D'un coup de tête dans l'estomac, l'inspecteur le fit rouler à terre et cria qu'il casserait la gueule au premier qui approcherait. Un Français qui se trouvait parmi les spectateurs l'appela sale bourrique. Le policier qui avait emmené Clara sans qu'elle fît de résistance arrivait à la rescousse. Les deux agents saisirent par les bras et portèrent jusqu'à la grande porte de l'hôtel de ville Angèle, qui se débattait et hurlait. Ils firent une pause au seuil du grand monument historique, avant de se rendre au bureau du commissaire qui se trouvait à côté, au fond du corridor à gauche. « Tiens, Ross !» dit l'un en assénant sur la nuque de sa victime un formidable coup de poing. « Tiens, salope !» dit l'autre en lui lançant une ruade dans les jambes. « Tiens, ça t'apprendra à gueuler !» Et tiens, ça t'apprendra à rouspéter !» Et ils cognaient et ils bavaient leurs insultes, s'excitant l'un l'autre, s'en donnant à cœur joie, heureux de sentir la force de leurs bras de paresseux et la richesse de leur crapuleux vocabulaire. La jeune femme, chancelant à chaque coup, jetée à droite, à gauche, en avant, protégeait sa tête de ses deux bras arrondis. Elle ouvrait la bouche pour jeter de grands cris, mais suffoquée, ne pouvant rattraper sa respiration, haletait. Ah ! Ah ! Ils allaient la tuer. Décoiffée, le visage tuméfié, les vêtements plaqués debout, elle fut très correctement amenée par les deux agents devant le commissaire. Celui-ci, la moustache rousse en flamme, les cheveux en brosse, ajusta son binocle à monture d'or et se renversa dans son fauteuil. « Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la raccrocheuse qui faisait du scandale avec l'autre sur la voie publique, » dit l'un. « Elles sont saoules, » compléta l'autre. « Ce n'est pas vrai !» cria Clara, assise paisiblement dans un coin. Elles voulurent protester contre ces mensonges, mais après quelques paroles, Angèle se mit à fondre en larmes, et Clara à injurier les agents. Ils déposèrent rapidement. Les deux femmes les avaient interpellées sur le boulevard Anspar, la grande rousse Clara avait fait le prix en route. 100 sous la chambre payée. Elle se trouvait en face du numéro 49 du boulevard. Était-ce le 49 ? Voulut bien leur demander l'important fonctionnaire qui se curait les ongles, et comme elle se taisait, « Foutez-moi ça, l'amigo !» Terrifiée, Angèle cria. « Non, monsieur. Monsieur, vous ne pouvez pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas fait de mal. Je rentrais chez moi. J'étais allée au cimetière. Je veux m'en aller. Vous n'avez pas le droit. Elle est saoule, dit-il. » Comme elle continuait de pleurer, de le supplier. « Allez, oust !» cria-t-il en se regardant dans une petite glace, pour constater qu'il avait, dans la circonstance, l'air autoritaire et hautain d'un fonctionnaire allemand. Après leur avoir enlevé leurs boucles d'oreilles, leur porte-monnaie, le contenu de leur poche, un agent de police emmena les deux femmes au fond du couloir, leur fit monter un escalier, ouvrit une porte percée d'un Judas. « Entrez !» Elles obéirent. Il tira la porte sur elles et sortit en raclant les pieds et en secouant son trousseau de clés. Les deux femmes se trouvaient dans une grande salle planchéiée, aux murs blanchis à la chaux, éclairée par un bec de gaz placé au-dessus de la porte. Angèle, aveuglée par ses larmes, ne distinguait qu'un brouillard jaune. « Ne pleure pas, » dit Clara. « Une nuit est vite passée. » Comme chez elle, la roubaisienne inspecta le local. Le long du mur qui se trouvait en face de la porte, un large bas flanc, légèrement incliné, servait de couche aux prisonnières. Au-dessus, une planche sur laquelle s'empilaient des couvertures. Entre le bas flanc et la planche, une rangée de porte-manteaux où pendaient un ruban et un bout de voilette bleue. Dans le coin de gauche, une table flanquée de deux bancs. À droite, un poêle rond de fonte, qui ronflait. Au-dessus du tiroir, un trou clair luisait et se reflétait doucement sur une lame de tôle clouée sur le parquet. Après s'être à demi dévêtue, Clara atteignit les couvertures et, avec un soin méticuleux, se prépara une couche confortable pour la nuit. Au bout de 10 minutes, elle ronflait. Angèle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Pendant un quart d'heure, elle bégayait à mi-voix. Puis, comme si une rafale de douleur la flagellait, elle criait, hurlait, appelait sa mère. « Maman ! Maman ! Maman !» Un gardien entra. C'était un vieux brave homme qui fut apitoyé. « Taisez-vous ! Taisez-vous ! » Elle le supplia de la laisser sortir. « On ne peut pas ! On ne peut pas !» Il l'engagea à se calmer. « C'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Pas l'habitude. » Elle tira un banc vers le poêle et, pleurant en silence, regarda le trou clair du foyer. Une foule d'idées se heurtait dans sa tête, sans qu'elle pût en saisir aucune. Elle voyait sa mère, le cimetière d'Anderlecht, son mari, un petit voisin d'autrefois avec qui elle jouait à cache-cache. Pour essayer de se consoler, elle s'efforçait de penser aux événements les plus tristes de sa vie, à la mort de sa mère, au jour où elle avait eu faim, où elle avait eu froid, aux lâchetés de son amant, à la nuit que son mari avait passée à Bruxelles. Mais loin d'éprouver un soulagement, elle ne faisait qu'amonceler plus de douleur dans son âme. Vers 2 heures du matin, il lui sembla qu'un cercle de fer lui serrait la tête et se rétrécissait lentement. Devenait-elle folle ? Elle hurla des cris étranges, comme ceux qu'on pousse dans les cauchemars ou les périls de mort, se jeta à terre et se mit à réciter les prières qu'elle avait apprises à l'école. Le vieux gardien accourut. « Je n'ai jamais vu ça. Dire des prières ici ? Il faut vous taire. Je veux m'en aller. Demain. Tout de suite. N'ayez pas peur. On ne vous fera pas de mal. On ne me fera plus de mal, n'est-ce pas, monsieur ? Dit-elle d'une voix peureuse d'enfant. « Non, ma fille. Mais il faut être sage. Je serai sage. Il ne faut plus crier. Je ne crierai plus. » Vers 6 heures du matin, un jour laiteux éclaira tristement 3 petites fenêtres grillagées, percées au haut de la paroi de gauche. Dans un bâtiment voisin, on faisait l'appel des prisonniers. C'était un défilé monotone de voix sourdes. « Présent ! Présent ! » Un aumônier dit la prière du matin. Clara s'éveilla, étonnée qu'Angèle ne se fût pas couchée, plia ses couvertures et les rangea sur la planche. À 7 heures, une femme entra, portant sur un plateau un pot de lait, un pot de café et des tartines beurrées. Aussitôt, Clara se mit à manger de bon appétit. « On n'en a pas autant tous les matins, » dit-elle. Et comme Angèle refusait de toucher au bol de café au lait qu'elle lui avait préparé, elle le but en achevant les tartines beurrées. Toutes deux firent leur toilette, trouvant bienfaisante la fraîcheur de l'eau. Elles étaient prêtes, quand un jeune gardien ouvrit la porte et cria « Allez, oust, les femmes !» On leur rendit leur argent, leurs boucles d'oreilles et les menus objets qu'elles avaient déposés au commissariat. Derrière l'hôtel de ville, dans l'étroite rue de l'Amigo, un panier à salade était arrêté. « Comme tous les jours, une foule gouailleuse attendait la sortie des femmes. Rouge de honte, baissant la tête, Angèle, suivie de Clara, qui ne demandait qu'à scolter avec les voyous, monta rapidement dans la voiture. L'agent qui avait arrêté Angèle les accompagnait, cherchant à se faire humble, car l'enquête de police faite la veille chez les Ruidères et chez quelques voisins établissait que sa victime était une femme tranquille, qui allait en journée chez les cabaretières. Elle détournait la tête avec dégoût de ce mufle ignoble, suant la bassesse et la lâcheté. La voiture s'arrêta devant le dispensaire de la rue aux Laines, où tous trois entrèrent. L'inspecteur dit quelques mots à un gardien et disparut. La salle où se trouvaient les deux femmes était coupée en deux jusqu'à la hauteur de 2 mètres, par une cloison percée de 3 larges guichets où s'encadraient 3 têtes d'employés. Ils s'arrêtèrent d'écrire, lancèrent à haute voix de dégoûtantes plaisanteries, de pauvres calembours immondes, en s'esclaffant avec des rires gras de table d'hôte, heureux de remuer du groin autant d'ordures qu'ils le voulaient, épanouis dans la débauche verbale, eux qui n'avaient que de chétifs ébattements conjugaux ou tarifés. Clara poussa du coude Angèle, honteuse comme si elle était nue devant ces brutes. « Ils sont rigolos, » dit-elle. C'était le jour de la visite médicale. Des filles soumises entraient, présentaient leurs cartes vertes. D'autres se faisaient inscrire. D'autres réclamaient, engueulaient les employés qui n'étaient jamais à court d'injures. Toutes sortaient par la porte du fond, se rendant à la visite. Blême de peur, Angèle se serrait contre Clara qui parlait et ricanait avec les filles. On allait l'inscrire sur les registres. Elle devrait donner le nom de ses parents, de sa mère. On l'accusait d'avoir vagabondé le jour des morts. Était-ce possible? Elle ne pleurait plus, mais ses dents claquaient. Clara la rassura. « N'aie pas peur. On ne donne pas de carte aux Françaises. Mais la visite, la belle affaire. » Le bruyant défilé des filles dura jusqu'à 11 heures. Personne ne s'occupait des deux femmes, toujours assises sur un banc en face des guichets. Quand le bureau fut désert, un employé, celui qui passait pour le plus spirituel, leur cria. « Est-ce que vous attendez le Messie ?» Les autres éclatèrent de rire. L'un se hâta de faire quelques scatologiques calembours. L'autre fredonna une chanson graveleuse. Un gardien entra et les conduisit au bureau du commissaire. « Chouette, nous ne passerons pas la visite !» dit Clara. Angèle la crut sur le champ et fut soulagée. Le commissaire, un gros brave homme aux terribles moustaches, aux yeux d'enfant, qui paraissait plus bleu dans son visage rose, feuilletait le rapport concernant l'arrestation des deux femmes. Clara voulut se disculper comme on injurie. Il la fit taire. « Et vous ?» dit-il à Angèle. Celle-ci fut si heureuse d'être traitée sans rudesse, d'entendre un homme qui ne l'insultait pas, qui parlait sans mépris, qui même avait dans la voix un accent de bonté paternelle, qu'elle pleura, pleura, autant de joie que de honte, en faisant nom de la tête. « Allons, allons !» dit le commissaire ému. Il la fit asseoir. « Comment se fait-il ? Voyons, voyons, calmez-vous ! Les agents se sont-ils trompés ?» Elle put parler. Elle rentrait chez elle. Elle n'avait pas dit un mot aux agents. Elle était allée au cimetière d'Anderlecht. « On ne fait pas ça le jour des morts ?» Le commissaire n'osait cligner les paupières, de peur de détacher 2 larmes qui tremblaient dans ses yeux. « Et les autres jours, est-ce que vous sortez ?»« Oui, » répondit-elle, le visage dans son mouchoir. Il profita de ce que les deux femmes ne le regardaient pas pour se frotter les sourcils, faire sauter les 2 larmes gênantes dans le creux de sa main. Angèle, remise, racontait fébrilement. « On a fait faillite. Il m'a quittée. Je n'ai pas trouvé de travail. »« Pauvre petite, » dit-il. Il improvisa une petite morale. « Il ne faut plus faire ça. Elle doit retourner dans son pays où elle trouvera du travail. Il donnerait des ordres pour qu'on ne l'inquiétât pas pendant quelques semaines. Mais aussitôt qu'elle aurait assez d'argent pour son voyage, il fallait quitter Bruxelles. « Quand vous partirez, vous viendrez me le dire. »« Oui, monsieur le commissaire, » dit-elle, réconfortée. « Vous êtes libre. »